Le rendement des fonds souverains, capital et politique. Examinons maintenant le cas des fonds souverains, qui se sont fortement développés ces dernières décennies, notamment parmi les pays pétroliers. Les données publiquement disponibles sur les stratégies de placement et les rendements effectivement obtenus sont malheureusement beaucoup moins détaillées et systématiques que celles portant sur les dotations universitaires, ce qui est d'autant plus regrettable que les enjeux financiers sont autrement plus lourds. Le fonds norvégien, qui pèse à lui seul plus de 700 milliards d'euros en 2013, soit deux fois plus que toutes les universités américaines réunies, est celui qui publie les rapports financiers les plus détaillés. Sa stratégie de placement, au moins à ses débuts, semble plus classique que celle des dotations universitaires, sans doute en partie parce qu'elle se fait sous le contrôle de la population, qui accepterait peut-être moins bien que le board de Harvard des placements massifs en hedge funds et en actions non cotées. Et les rendements obtenus semblent nettement moins bons. Les responsables du fonds ont obtenu ces dernières années l'autorisation de se lancer de façon plus importante dans les placements alternatifs, en particulier dans l'immobilier international, et il est possible que ces rendements augmentent à l'avenir. On notera également que les frais de gestion du fonds s'élèvent à moins de 0,1% de la dotation, contre 0,3% pour Harvard. Mais compte tenu du fait que le fonds est plus de 20 fois plus gros, cela permet tout de même de bien réfléchir à la stratégie de placement. On apprend également que sur l'ensemble de la période 1970-2010, environ 60% de l'argent du pétrole a été placé dans le fonds et que 40% a été consommé annuellement en dépenses publiques. Les autorités norvégiennes ne vont pas jusqu'à nous dire précisément quel est l'objectif à long terme de montée en puissance du fonds et à partir de quelle date le pays pourra commencer à consommer les rendements obtenus, ou tout du moins une partie d'entre eux. Sans doute ne le savent-elles pas elles-mêmes. Tout dépend de l'évolution des réserves pétrolières, du prix du baril et du rendement obtenu dans les décennies à venir. Si l'on examine les autres fonds souverains, et en particulier ceux du Moyen-Orient, on constate malheureusement une beaucoup plus grande opacité. Les rapports financiers sont le plus souvent assez sommaires. Il est généralement impossible de connaître précisément la stratégie de placement et les rendements obtenus sont évoqués de façon allusive et parfois peu cohérente d'une année sur l'autre. Les derniers rapports publiés par l'Abu Dhabi Investment Authority, qui gère le plus important fonds souverain mondial, approximativement à égalité avec la Norvège, annoncent un rendement réel moyen supérieur à 7% par an sur la période 1990-2010 et supérieur à 8% sur la période 1980-2010. Compte tenu des rendements observés sur les dotations universitaires, cela semble tout à fait plausible. Mais en l'absence d'informations annuelles détaillées, il est difficile d'aller plus loin. Il est intéressant de noter qu'il existe apparemment des stratégies de placement très différentes suivant les fonds, qui vont d'ailleurs de pair avec des stratégies de communication très différentes vis-à-vis de leur population, et aussi des stratégies politiques différentes sur la scène internationale. Alors qu'Abu Dhabi annonce haut et fort un rendement élevé, il est frappant de constater à quel point le fonds d'Arabie Saoudite, qui vient immédiatement après Abu Dhabi et la Norvège dans la hiérarchie des fonds pétroliers, et devant le Koweït, le Qatar et la Russie, choisit au contraire de faire profil bas. Il est clair que les petits pays pétroliers du Golfe Persique, qui ont une population locale limitée, s'adressent avant tout à la communauté financière internationale. Les rapports saoudiens sont plus sobres et intègrent la présentation de leurs réserves dans des documents à visée plus générale, indiquant l'évolution des comptes nationaux et des budgets publics. Ils s'adressent avant tout à la population du royaume, qui s'approche des 20 millions d'habitants au début des années 2010, ce qui reste faible par comparaison aux grands pays de la région, 80 millions en Iran, 85 millions en Égypte, 35 millions en Irak, mais ce qui est incomparablement plus élevé que les micro-États du Golfe. Outre cette posture différente, il semblerait que les réserves saoudiennes soient également placées de façon beaucoup moins agressive. D'après les documents officiels, le rendement moyen obtenu sur les réserves de l'Arabie saoudite ne dépasserait pas 2-3%, et cela s'expliquerait notamment par le fait qu'une très grande partie de ces réserves serait placée en titres de la dette publique américaine. Les rapports financiers saoudiens sont loin de donner toutes les informations nécessaires pour connaître l'évolution détaillée de leur portefeuille, mais les éléments disponibles sont globalement beaucoup plus fournis que ceux donnés par les micro-États, et ce point précis semble exact. Pourquoi l'Arabie saoudite choisirait-elle de placer ses réserves en bons du trésor américain alors qu'il est possible d'obtenir de bien meilleurs rendements ailleurs? La question mérite d'autant plus d'être posée que cela fait des décennies que les dotations des universités américaines n'investissent plus dans les titres publics de leur propre pays et vont chercher le rendement là où ils se trouvent dans le vaste monde, dans des fonds spéculatifs, des actions non cotées ou des produits dérivés de matières premières. Certes, les titres de l'État américain offrent une garantie de stabilité enviable dans un monde instable, et il est possible que l'opinion saoudienne n'ait guère de goût pour les placements alternatifs. Il n'en reste pas moins que la dimension politique et militaire d'un tel choix ne peut pas être ignorée. Même si cela n'est pas dit explicitement, il n'est pas illogique pour l'Arabie saoudite de prêter à bas taux au pays qui la protège militairement. À ma connaissance, personne n'a tenté de calculer précisément la rentabilité d'un tel investissement. Mais il paraît évident que le taux de rendement est sans doute assez élevé. Si les États-Unis, soutenus par les autres pays occidentaux, n'étaient pas venus déloger l'armée irakienne du Koweït en 1991, il est probable que l'Irak aurait ensuite menacé les gisements saoudiens, et on ne peut pas exclure que d'autres pays de la région, comme l'Iran, seraient rentrés dans ce jeu militaire régional de redistribution de la rente pétrolière. La dynamique de la répartition mondiale du capital est un processus qui est à la fois économique, politique et militaire. Il en allait déjà ainsi à l'époque coloniale, quand les puissances de l'époque, Royaume-Uni et France en tête, étaient promptes à sortir la canonnière pour protéger leurs investissements. De toute évidence, il en ira de même au XXIe siècle, dans des configurations géopolitiques différentes et difficiles à prévoir. Les fonds pétroliers vont-ils posséder le monde ? Jusqu'où peuvent monter les fonds souverains dans les décennies à venir ? D'après les estimations disponibles, notoirement imparfaites, la totalité des placements des fonds souverains représenterait en 2013 un peu plus de 5 300 milliards de dollars, dont environ 3 200 milliards pour les fonds des pays pétroliers, en ajoutant aux principaux fonds cités plus haut un grand nombre de fonds moins importants. Dubaï, Libye, Kazakhstan, Algérie, Iran, Azerbaïdjan, Brunei, Oman, etc. et approximativement 2 100 milliards pour les fonds de pays non pétroliers, c'est-à-dire principalement la Chine, Hong Kong, Singapour et beaucoup de plus petits fonds de nombreux pays. Pour se rappeler les ordres de grandeur, on peut noter qu'il s'agit presque exactement de la même masse que la fortune totale des milliardaires répertoriés par Forbes, environ 5 400 milliards de dollars en 2013. Autrement dit, dans le monde d'aujourd'hui, les milliardaires possèdent approximativement 1,5% du total des patrimoines privés dans le monde, et les fonds souverains possèdent également l'équivalent d'environ 1,5% du patrimoine privé mondial. On peut se rassurer en notant que cela laisse tout de même 97% du capital mondial pour le reste de la planète. On peut aussi appliquer aux fonds souverains les mêmes projections que pour les milliardaires et en conclure qu'ils ne prendront une importance décisive, plus de 10-20% du capital mondial, qu'au cours de la seconde moitié du XXIe siècle et que nous sommes donc assez loin de devoir payer notre loyer mensuel à l'émir du Qatar ou aux contribuables norvégiens. Cela est partiellement vrai, mais il n'en serait pas moins excessif d'ignorer la question. Tout d'abord, il n'est pas interdit de se soucier du loyer de nos enfants et petits-enfants, et il n'est pas nécessaire d'attendre que l'évolution prenne une telle ampleur pour s'en préoccuper. Ensuite, une bonne part du capital mondial prend des formes peu liquides, notamment sous forme de capital immobilier et professionnel non échangeable sur des marchés financiers. Si bien que la part des fonds souverains, et dans une moindre mesure des milliardaires, dans les actifs financiers immédiatement mobilisables, par exemple pour reprendre une entreprise en faillite, racheter un club de football ou investir dans un quartier en difficulté et suppléer ainsi aux carences d'un État impécunieux, est en réalité plus élevée. De fait, la question de ces investissements en provenance des pays pétroliers est de plus en plus présente au sein des pays riches, et notamment en France, pays dont nous avons déjà noté dans la deuxième partie du livre qu'il est sans doute l'un des moins bien préparés psychologiquement à ce grand retour du capital. Enfin et surtout, la différence essentielle avec les milliardaires et que les fonds souverains, tout du moins ceux des pays pétroliers, vont progresser non seulement du fait de la recapitalisation de leur rendement, mais également du fait des recettes pétrolières qui vont venir abonder ces fonds dans les décennies à venir. Or, même s'il existe de nombreuses incertitudes à ce sujet, tant pour ce qui concerne la taille des réserves que l'évolution de la demande et du prix du pétrole, tout semble indiquer que cet effet peut largement dominer celui du rendement. La rente annuelle, issue de l'exploitation des ressources naturelles, définie comme la différence entre les recettes et les coûts de production, représente depuis le milieu des années 2000 de l'ordre de 5% du PIB mondial, dont la moitié pour la rente pétrolière proprement dite et la moitié pour les autres ressources naturelles, essentiellement gaz, charbon, minerais, bois, contre environ 2% dans les années 1990 et moins de 1% au début des années 1970. Selon certains modèles de prévision, le prix du pétrole, actuellement autour de $100 le baril, contre $25 au début des années 2000, pourrait s'établir durablement autour de $200 à partir de 2020-2030. Si une part suffisamment importante dans la rente correspondante est placée chaque année dans les fonds souverains, une part qui devrait toutefois augmenter sensiblement par comparaison aux rythmes actuels, alors on peut sans difficulté écrire un scénario où les actifs des fonds souverains dépasseraient 10-20% du total des patrimoines mondiaux d'ici à 2030-2040. Aucune loi économique n'empêche une telle trajectoire. Tout dépend des conditions de l'offre et de la demande, de la découverte ou non de nouveaux gisements ou sources d'énergie, de la vitesse avec laquelle les uns et les autres s'habitueront à vivre sans pétrole. Dans tous les cas de figure, il est presque inévitable que les fonds pétroliers continuent leur progression actuelle et que leur part dans les actifs mondiaux soit d'ici à 2030-2040 au moins 2-3 fois plus élevée que ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui représenterait déjà une évolution considérable. Si une telle évolution devait avoir lieu, il est probable que les pays occidentaux supporteraient de plus en plus mal l'idée d'être possédés pour une part significative par les fonds pétroliers et que cela déclencherait à plus ou moins brève échéance des réactions politiques de dictature, par exemple sous forme de restrictions quant aux possibilités d'achat et de détention d'actifs immobiliers, industriels et financiers nationaux par les fonds souverains, voire sous forme d'expropriation partielle ou totale. Il s'agit là d'une réaction qui n'est ni particulièrement brillante politiquement, ni spécialement efficace économiquement, mais qui a le mérite d'être à la portée d'un gouvernement national, y compris dans un pays de petite taille. On peut d'ailleurs remarquer que les pays pétroliers eux-mêmes ont déjà commencé à restreindre leurs investissements étrangers et se sont mis à investir massivement sur leur propre territoire pour y établir des musées, des hôtels, des universités, voire des stations de ski, parfois de façon totalement démesurée du strict point de vue de la rationalité économique et financière. Cela peut être interprété comme une prise de conscience précoce du fait qu'il est plus difficile d'être exproprié chez soi qu'à l'étranger. Rien ne garantit cependant que ce processus se fera toujours de façon paisible. Personne ne connaît la position exacte de la frontière psychologique et politique à ne pas franchir en matière de détention d'un pays par un autre. La Chine va-t-elle posséder le monde ? Le cas des fonds souverains des pays non pétroliers se pose un peu différemment. Pourquoi un pays sans ressources naturelles particulières déciderait-il de posséder un autre pays ? On peut certes penser à une ambition néocoloniale, une pure volonté de puissance, comme à l'époque du colonialisme européen. Mais la différence est que les pays européens disposaient alors d'une avance technologique leur permettant d'asseoir leur domination. La Chine et les autres pays émergents non pétroliers sont certes engagés dans un processus de croissance extrêmement rapide, mais tout indique que cela cessera quand le rattrapage de productivité et de niveau de vie sera achevé. La diffusion des connaissances et des techniques de production est un processus qui est fondamentalement égalisateur. Une fois que le moins avancé a rattrapé le plus avancé, il cesse de croître plus vite. Dans le scénario central d'évolution du rapport capital-revenu au niveau mondial présenté dans le chapitre 5, nous avons supposé que les taux d'épargne des différents pays allaient se stabiliser aux alentours de 10% du revenu national à mesure que ce processus de convergence internationale allait à son terme. Dans ce cas, l'accumulation du capital prendra des proportions comparables dans tous les pays. une part très importante du stock de capital mondial sera certes accumulée dans les pays asiatiques, et notamment en Chine, à la mesure de leur part à venir dans la production mondiale. Mais le rapport capital-revenu, selon ce scénario central, devrait prendre des valeurs similaires sur les différents continents, sans déséquilibre majeur donc entre l'épargne et l'investissement dans les différentes zones. La seule exception concerne l'Afrique. Dans le scénario central représenté sur les graphiques 12.4-12.5, le rapport capital-revenu devrait se situer à un niveau sensiblement plus bas sur le continent africain que sur les autres continents tout au long du XXIe siècle, essentiellement du fait d'un rattrapage économique beaucoup plus lent et d'une transition démographique également plus progressive. En régime de libre circulation des capitaux, cela devrait logiquement conduire à renforcer les flux d'investissement venant des autres continents, notamment de l'Asie et de la Chine. Pour les raisons déjà évoquées, cela pourrait provoquer des tensions importantes, d'ailleurs déjà en partie perceptibles. D'après les simulations du scénario central, le rapport capital-revenu au niveau mondial pourrait s'approcher de 700% d'ici à la fin du XXIe siècle. On peut bien sûr concevoir des scénarios beaucoup plus fortement déséquilibrés que ce scénario central, mais il est important d'insister sur le fait que les forces de divergence sont beaucoup moins évidentes que dans le cas des fonds pétroliers, qui reposent sur une manne totalement hors de proportion avec les besoins des populations propriétaires de la manne en question, d'autant plus que les populations concernées sont parfois insignifiantes numériquement. D'où une logique d'accumulation sans fin, que l'inégalité R supérieure à G peut transformer en une divergence permanente de la répartition du capital au niveau mondial. Pour résumer, la rente pétrolière peut effectivement, dans une certaine mesure, permettre d'acheter le reste de la planète et de vivre ensuite des rentes du capital correspondant. Au moins, ce processus transparent de transformation de la rente pétrolière en une rente capitalistique diversifiée a-t-il le mérite d'illustrer le point suivant. Le capital a pris historiquement différentes formes, terriennes, pétrolières, financières, professionnelles, immobilières, etc. Mais cela n'a pas véritablement changé sa logique profonde, ou en tout cas beaucoup moins que ce que l'on imagine parfois. Dans le cas de la Chine, de l'Inde et des autres pays émergents, les choses sont très différentes. Ces pays rassemblent des populations considérables dont les besoins sont loin d'être satisfaits, tant en termes de consommation que d'investissement. On peut certes imaginer des scénarios où le taux d'épargne chinois se situerait de façon permanente à un niveau plus élevé que les taux européens et américains, par exemple parce que la Chine choisirait un système de retraite entièrement fondé sur la capitalisation et non sur la répartition, choix qui peut être assez tentant dans un régime de croissance faible et plus encore de croissance démographique négative. Par exemple, si la Chine épargne 20% de son revenu national jusqu'en 2100, tandis que l'Europe et l'Amérique en épargnent 10%, alors une bonne partie du vieux continent et du nouveau monde sera possédée d'ici à la fin du siècle par de gigantesques fonds de pension chinois. Entre un quart et la moitié du capital européen et américain, voire davantage suivant les hypothèses, pourrait dans ce cas de figure être concerné. Cela est logiquement possible, mais assez peu plausible, d'une part parce que les salariés chinois et la société chinoise dans son ensemble préféreront sans doute, non sans raison, s'appuyer pour une part importante sur des systèmes publics de retraite par répartition, comme en Europe et en Amérique. Et d'autre part, pour les raisons politiques déjà soulignées plus haut pour le cas des fonds pétroliers et qui s'appliqueraient tout autant dans le cas des fonds de pension chinois.